RFI, 23h30 à Paris et Kinshasa, 22h30 temps universel.
Afrique Soir.
La dernière édition d'Afrique Soir avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Dans l'est de la République démocratique du Congo, situation toujours tendue, les combats entre l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont poursuivis autour de la localité de Sake. Ces combats ont provoqué de nouveaux déplacements de population à Rubavu notamment, ville frontalière du Rwanda. Au Gabon, le premier tour de la présidentielle fixé au 12 avril, c'est une étape clé vers la fin de la transition prévue en août prochain. Dans l'actualité également, la polémique après la libération par l'Italie d'un chef de la police libyenne recherché par la Cour pénale internationale. C'est l'un des plus gros diamants découverts en République centrafricaine, près de 178 carats. Un diamant extrait dans le sud du pays à plus d'un millier de kilomètres de Bangui, dans la commune de Zako. Les sports, c'est l'un des événements de ce début d'année. Le basket, c'est le début des NBA Paris Games. Enfin, musique avec Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, l'ambianceur d'Afrique Soir. Avec ce soir, entre autres, la sélection rétro, la grande Césaria Evora pour Petit Pays. Dans l'est de la RDC, les combats se sont poursuivis ce jeudi autour de la cité de Sake, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale. Les forces armées congolaises et leurs alliés affrontent les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise. À Kinshasa, Pauline Azidi.
Les affrontements assez violents ont commencé aux alentours de 4 heures ce jeudi matin. Des bombardements venus des positions du M23 et des militaires rwandais en direction de celles des forces congolaises et de leurs alliés à Sake. Et les détonations ont été régulièrement entendues jusqu'à la ville de Goma. Les responsables de l'armée congolaise à l'est ont reconnu l'utilisation d'hélicoptères militaires en appui aérien aux soldats au sol et affirment que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser et protéger la capitale provinciale. Selon plusieurs sources sécuritaires, des troupes de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, et de la SAMI-DRC, de la Communauté d'Afrique australe, ont été envoyées sur le front en soutien. Ces affrontements ont déjà provoqué d'importants mouvements de population. En effet, plusieurs camps de déplacés sont situés à l'ouest de Goma, le long de la route qui mène à Sake. On estime qu'il y a environ 600 000 déplacés dans les alentours de la ville, des personnes qui se sont dirigées vers le centre-ville. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et le président Félix Tshisekedi est rentré de Davos en Suisse ce jeudi. Il est à Kinshasa selon son entourage. Il est tenu au courant de la situation sur le front heure par heure. Le chef de l'État doit réunir demain matin un Conseil national de la défense ainsi que le traditionnel Conseil des ministres du vendredi. Quant au président de l'Assemblée nationale, il a lui écourté son voyage au Vietnam. Vital Kamerhe assistera demain à ces réunions. Enfin, les autorités congolaises appellent la population de Goma à ne pas paniquer. Elles assurent que les forces congolaises contrôlent la situation. Quoi qu'il en soit, face à l'intensification des combats autour de la localité de Sake, de nombreux habitants de Goma ont traversé la frontière vers le Rwanda dans la ville frontalière de Rubavu. Reportage du Simuyo.
Devant la grande barrière, les taxis se pressent pour aborder les voyageurs arrivés de Goma en nombre avant la fermeture quotidienne du poste frontière en milieu d'après-midi. Une valise à la main, avec ses deux enfants, Amina a préféré passer la nuit à Rubavu.
Mon mari habite ici. Il m'a dit de venir juste de traverser aujourd'hui avec les enfants pour cause des paniques qui est dans la ville de Goma. Pour la raison des guerres. Juste ça.
Une précaution prise par un certain nombre d'habitants de Goma, inquiets suite à l'intensification des combats dans la zone. Sac en main, Innocent Mansourou a décidé de traverser la frontière pour se réfugier dans un hôtel.
Au niveau de la douane, c'était plein à craquer. Quand on a de petits enfants, on ne va pas attendre et quitter à la dernière minute. Parce que tout peut changer, on ne sait pas, nous on n'est pas à la ligne de front, on ne sait pas ce qui se passe là-bas.
Dans un communiqué, la société civile de Goma appelle la population au calme et à ne pas quitter la ville. Mais les détonations entendues ce jeudi jusqu'à Rubavu ont poussé certains habitants à se mettre à l'abri.
Même maintenant qu'on se parle maintenant, il y a Inobi qui vient de se faire attendre jusqu'ici où nous sommes. Alors imaginez ceux qui sont de l'autre côté, c'est comme si ça explose juste dans la parcelle voisine. Voilà ce qui fait qu'on a décidé de quitter.
Comme beaucoup, Innocent prévoit d'attendre ici l'évolution de la situation sécuritaire en espérant pouvoir rentrer le plus rapidement possible à Goma. Lucie Mouillot, Rubavu, RFI.
RFI à Libreville, 104 FM.
Ça y est, on connaît la date du premier tour de la présidentielle au Gabon. Ce sera le 12 avril. Ce sera une étape décisive vers la fin de la transition prévue en août et vers le retour à un régime civil. Alors comment réagit la classe politique gabonaise à cette annonce? À Libreville, Yves-Laurent Goma.
Ancien vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou conteste la nouvelle constitution et le nouveau code électoral. Il explique avoir été piqué au vif à l'annonce de la date du premier tour de l'élection présidentielle dans moins de 3 mois.
Nous refusons catégoriquement ces dates qui ne sont pas consensuelles, concertées par la classe politique. C'est une aberration et nous invitons à plus de concertation, à un dialogue, non pas dans la peur, mais dans la sérénité.
Pierre Claver Maganga Moussavou accuse le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, de se tailler un processus électoral à la hauteur de ses ambitions politiques. Ce n'est pas l'avis de Gérard Elanguema, président du Front patriotique gabonais, député et troisième secrétaire de l'Assemblée nationale.
Nous sommes d'accord avec cette date. Nous pensons que la décision prise par le dernier Conseil des ministres est une bonne décision pour que nous puissions retrouver l'ordre constitutionnel dans les tout prochains jours.
Tous les textes en vigueur autorisent le général Oligui Nguema à être candidat à la présidentielle. Mais le président de la transition maintient le suspense. Des leaders politiques et de la société civile lui demandent de respecter sa promesse de remettre le pouvoir aux civils après avoir organisé des élections libres, crédibles et transparentes. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Vous écoutez Afrique Soir, la Cour pénale internationale, la CPI, réclame des explications à l'Italie. Le chef de la police judiciaire à Tripoli, Osama Najim, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a été arrêté à Turin, en Italie, c'était dimanche, avant d'être finalement libéré mardi par les autorités italiennes. Il est ensuite rentré dans la soirée en Libye, à bord d'un avion affrété par le gouvernement italien, échappant ainsi à la justice internationale, et sa libération fait polémique, Ouda Ibrahim.
La CPI laisse entendre que l'Italie ne se coordonne pas pleinement avec elle. Elle affirme qu'elle lui a envoyé les informations sur Osama Najim en temps et en heure. La Cour cherche à savoir si les autorités italiennes ont bien pris les mesures pour l'extradition de cet homme à La Haye. Elle rappelle que tous les États qui ont ratifié le traité de Rome ont le devoir de coopérer pleinement avec elle dans le cadre de ses enquêtes et de ses poursuites. Selon le mandat d'arrêt de la CPI, Osama Najim al-Masri a tué, torturé et violé des détenus à Tripoli, des migrants comme des Libyens. En Italie, le gouvernement est sous le feu des critiques des partis d'opposition qui dénoncent une opération très opaque. Cette opposition s'étonne comment un homme accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI se sente tellement en sécurité en Italie. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, est appelée à s'expliquer devant le Parlement.
Et qui est donc Osama Najim, recherché par la Cour pénale internationale, un homme plus connu sous le nom d'Al-Masri. Virginie Colombier, chercheuse rattachée à l'Université de Florence. Elle répondait à Nicolas Sûr dans Afrique Midi.
C'est un personnage malheureusement assez connu, et connu pour des raisons très négatives. Pourtant, il joue un rôle important dans le système carcéral à Tripoli en particulier, parce qu'il est responsable de plusieurs centres de détention majeurs, et en particulier du fameux centre de Meitiga, et où depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, sont perpétrées diverses maltraitances, mais aussi des épisodes de torture, de meurtre, de viol. C'est des prisons, en fait, qui sont en partie sous le contrôle d'une force de sécurité qui a un rôle de plus en plus important, qui une force avec une sorte d'affiliation idéologique, religieuse, très conservatrice. Mais disons que la personnalité d'Al-Masri est bien connue dans ce monde-là. Et c'est évidemment un personnage qui est de ce même fait qu'il contrôle ces centres de détention et un important maillon du dispositif lié au contrôle des migrants qui sont incarcérés en Libye, dans l'Ouest en particulier.
Que lui reproche la CPI?
Le mandat d'arrêt qui a été émis un peu plus tôt au cours de ce mois indique qu'il est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui ont été commis depuis février 2015, soit commis directement par lui, soit ordonnés par lui à des membres de cette fameuse force de sécurité dont je parlais précédemment.
Les forces spéciales de dissuasion connues sous le nom de RADA.
Exactement.
Alors, il assiste à un match de football entre la Juventus et Milan, en Italie. Il est interpellé par les services de police chargés des opérations spéciales. Et 3 jours plus tard, il est libre. Vice de procédure, comme on le dit officiellement à Rome, ou bien le gouvernement Meloni n'a pas voulu se fâcher avec son partenaire libyen?
À Rome, il y a une sorte d'imbroglio où les principaux responsables du gouvernement se rejettent la faute les uns les autres, parce qu'évidemment, ça fait un très mauvais effet d'avoir une personne qui est inculpée de ce type de crime par la CPI, qui fait l'objet également d'une notice rouge d'Interpol, qui a été libérée rapidement. Très clairement, il y a une tonalité très politique à cette affaire, et certains éléments de la presse italienne soupçonnent que derrière cette opération peu claire, il y a la volonté d'éviter de créer des problèmes avec les partenaires libyens, qui évidemment jouent un rôle absolument central dans les politiques de contrôle des frontières et de contrôle de la migration, qui sont au cœur du programme du gouvernement de Madame Meloni.
Virginie Colombier, chercheuse rattachée à l'Université de Florence. En bref, un collectif d'une quinzaine d'avocats de 5 pays dénonce la détention arbitraire de leur confrère burkinabé, Maître Guy Hervé Kam. Il est écroué depuis près d'un an à la prison militaire de Ouagadougou pour sa participation présumée à un complot. Maître Guy Hervé Kam est célèbre, avocat burkinabé, chef du mouvement politique Sens pour servir et non se servir. Il est aussi le cofondateur du collectif Ballet Citoyen, mouvement qui avait joué un rôle clé dans la chute du régime de l'ancien président Compaoré en 2014. Un passeport commun aux 3 pays de l'AES mis en circulation la semaine prochaine. Cela est prévu mercredi 29 janvier, date de sortie de la CEDEAO des 3 pays de cette alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. C'est ce qu'a annoncé le président en exercice de l'alliance, le général Assimi Goïta, numéro 1 de la junte malienne, dans un communiqué lu par les télévisions d'État.
RFI à Dakar, 92 FM.
Au Sénégal, 3 militantes féministes convoquées par la police hier. Fin décembre, leur groupe avait annoncé vouloir organiser un sit-in seins nus pour alerter sur l'augmentation des violences faites aux femmes avant d'annuler cette manifestation. Mais leur convocation inquiète les organisations féministes. Elles dénoncent une tentative d'intimidation. Écoutez Ndey Kadi Babou, médecin et l'une des coordinatrices du réseau des féministes au Sénégal.
Nous considérons cette convocation comme une tentative d'intimidation visant à faire taire nos voix critiques en tant que féministes et en tant que lanceurs d'alerte sur les violences que les femmes, jeunes filles subissent dans ce pays. Dans cette stratégie-là, il y a plusieurs étapes que nous vivons déjà au niveau du Sénégal. C'est l'intimidation judiciaire avec cette convocation judiciaire qui est quand même assez abusive et qui a pour but d'épuiser psychologiquement et financièrement les militantes qui aujourd'hui sont là pour les femmes filles victimes. Mais il s'agit aussi de campagnes de diffamation que les femmes militantes féministes subissent avec des diabolisations, une manipulation de l'opinion publique. Mais également, c'est la remise en cause systématique de la légitimité des discours féministes avec une infantilisation du discours militant oublié du plus important, c'est-à-dire qu'au Sénégal, sur les derniers rapports statistiques que nous avons de 2023, on sait qu'avant l'âge de 18 ans, 8 femmes sénégalaises sur 10 ont déjà eu à subir des violences.
Propos recueillis par Léa Lisa Westerhoff. Nouveau bilan de l'épidémie du virus de Marburg en Tanzanie. On dénombre désormais 9 morts selon l'agence sanitaire de l'Union africaine, l'Africa CDC. La Tanzanie qui connaît une nouvelle flambée de violence. Le virus provoque une fièvre hémorragique hautement infectieuse. Elle est transmise par certaines chauves-souris et elle appartient à la même famille que le virus Ebola. En Afrique du Sud, des familles de victimes de l'apartheid accusent l'ANC, le parti au pouvoir depuis le début de la démocratie sud-africaine en 1994, de ne pas avoir assez enquêté sur les crimes et atrocités pendant cette période. Après la commission Vérité et Réconciliation qui pendant 3 ans a entendu victimes et bourreaux, très peu de procès ont eu lieu pour les familles qui attendent toujours réparation. L'ANC est coupable de déni de justice et lors d'une conférence de presse à Johannesburg, elles ont expliqué la procédure qu'elles ont décidé de lancer contre l'État. Valentin Hugues.
Yasmine Souka était membre de cette commission Vérité-Réconciliation qui a pris fin en 1998.
Pendant 3 ans, la commission a entendu des victimes et des bourreaux. L'État devait ensuite prendre le relais et faire son travail, ouvrir des enquêtes, mais il ne l'a pas fait.
Depuis la fin de l'apartheid, il y a eu très peu de procès, alors les familles attendent toujours des réponses. Lucanio Kalata est le fils de Fort Kalata, militant anti-apartheid tué en 1985 à 28 ans.
Ils ont brûlé son corps et lui ont arraché la langue. Puis, dans un pays devenu une démocratie, l'ANC est arrivé au pouvoir et mon père a été trahi. Parce que finalement, qu'est-ce qui est pire ? Le gouvernement d'apartheid qui a tué mon père ou l'ANC qui a refusé de lui rendre justice ?
Aujourd'hui, ces familles demandent donc des comptes à l'État. Odette Gildenius, avocate en charge du dossier.
La plupart des meurtriers sont morts. Le dernier recours pour ces familles, c'est de se tourner vers la Cour et forcer le président à identifier les politiques qui ont fait obstruction à la justice, comprendre pourquoi ils ont agi ainsi et réfléchir à ce qui peut être mis en place maintenant pour ces familles.
Des familles qui regrettent que 30 ans après la fin de l'apartheid, elles aient encore à saisir la justice pour espérer obtenir des réponses. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et cette superbe découverte à présent en République centrafricaine, l'un des plus gros diamants découverts dans ce pays. Les autorités de Bangui ont présenté une pierre exceptionnelle, un diamant de près de 178 carats, extrait dans la commune de Zako, c'est dans le sud-est du pays, à plus d'un millier de kilomètres de Bangui. Charlotte Cossé.
Le président Touadéra lui-même est venu voir ce joyau. Sur une photo, le chef de l'État tient l'impressionnante pierre translucide encore brute. En cours d'expertise, ce diamant d'une qualité exceptionnelle, selon le ministre des Mines, Rufin Benam Beltungu, est sans nul doute d'une très grande valeur, ajoute-t-il. Cette pierre se trouve actuellement entre les mains de l'administration publique, mais est bien la propriété du collecteur qui l'a ramené de Nzako, un propriétaire dont le nom n'a pas été révélé. Il y a quelques semaines, cette localité était encore située dans la zone rouge du processus de Kimberley et l'exportation du diamant y était interdite. La présentation de la pierre à Bangui témoigne de l'effort de transparence et de traçabilité dans le cas de ce diamant, salue Paul Cressant Beninga. Il est membre de la coalition pour la société civile du processus de Kimberley. Il espère qu'une partie des bénéfices de sa vente servira au développement de la communauté de Nzako.
Les sports, à présent, c'est l'un des événements sportifs de ce début d'année. En basket, les NBA Paris Games qui ont débuté aujourd'hui à Paris et les San Antonio Spurs du français Victor Wembanyama ont battu les Indiana Pacers 140 à 110 pour le premier match. La NBA qui veut reconquérir un public beaucoup plus large après la France, le Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut imaginer bientôt un match officiel de la NBA en Afrique? Victor Mististrano a posé la question numéro 2 de la plus grande ligue du monde, le sous-commissaire Marc Tatum.
Un match de la NBA en Afrique est quelque chose que nous ambitionnons à terme, c'est certain. Nous avons déjà la Basketball Africa League, nous entrons dans la 5e saison avec des matchs dans 4 pays différents et c'est donc l'occasion pour les supporters d'assister à du basket de grande qualité, le meilleur du continent. Nous nous concentrons également sur l'accessibilité des matchs et des programmes de la NBA en Afrique et nous constatons que l'audience augmente. Certains des défis liés à l'organisation d'un match NBA sont énormes. L'un des points clés, ce sont les infrastructures et nous commençons à voir des investissements dans des installations de classe mondiale sur le continent, mais il faut aller plus loin. Les choses vont dans le bon sens, mais nous n'avons pas encore de plan immédiat pour jouer des matchs de la NBA là-bas, mais c'est certainement quelque chose que nous espérons pouvoir faire à l'avenir.
Quel avenir pour la politique alimentaire en Afrique? C'était une question posée lors du sommet de l'Union africaine en Ouganda du 9 au 12 janvier dernier. Et la déclaration de Kampala, qui a été adoptée par les États membres, définit une nouvelle feuille de route pour la prochaine décennie. C'est Afrique Éco avec Lucie Mouillot.
Contrairement à la déclaration de Malabo centrée sur le secteur agricole, l'agenda approuvé à Kampala adopte une approche plus holistique des besoins du système agroalimentaire du continent. Une vision plus large, fondamentale, affirme Marc Bertin Gansonré, député et secrétaire général de la Confédération paysanne du Burkina Faso.
Il ne suffit pas seulement de produits, c'est aussi apporter une valeur ajoutée à cette production. Apporter de la connaissance aux agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser les techniques et les technologies, travailler sur les infrastructures routières et travailler à accompagner le secteur industriel à se développer. C'est un grand chantier, mais on va se donner les moyens de réussir ce que nous avons commencé.
Parmi les objectifs de Malabo, l'affectation de 10% du budget de chaque pays à l'agriculture ou encore la réduction de moitié de la pauvreté d'ici 2025. Des objectifs très ambitieux, loin d'avoir été atteints par les États membres. Jérémy Lissouba, député congolais et secrétaire général du réseau parlementaire africain sur les systèmes alimentaires.
Nous constatons que très peu, si ce n'est aucun pays, n'a réellement réussi à allouer 10% de ses budgets nationaux. Notre vrai défi n'est pas un défi technique ou technologique, ni même financier. Notre vrai défi est un défi politique. Kampala doit être une décennie décisive. Relancer cette volonté politique.
D'ici 2035, la déclaration de Kampala vise notamment à réduire de moitié les pertes post-récolte, à tripler le commerce intra-africain de produits alimentaires ou encore à augmenter de 35% les aliments transformés localement. Donald Brown, vice-président du Fonds international de développement agricole.
One thing in the post-Malabo world that will be important.
Dans le monde de l'après-conférence de Malabo, il sera important de traduire les déclarations du niveau continental vers les organismes régionaux tels que la SADC et la CDAO, où les ministres des Finances seront mutuellement responsables des résultats obtenus.
La déclaration de Kampala réaffirme l'urgence de développer la capacité du continent à nourrir ses habitants pour 58% touchés par une forme modérée ou sévère d'insécurité alimentaire selon la FAO. Un enjeu d'autant plus important face aux prévisions sur la croissance démographique, estimant à 2,5 milliards la population africaine d'ici 2050. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et toute la rédaction d'Afrique Soir est déjà en train de s'ambiancer au générique de notre chauffeur de salle, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sylvie et bonsoir à vous qui nous écoutez.
Alors dans un instant, on va découvrir le titre que vous avez sélectionné pour la séquence rétro du jeudi. Mais pour l'heure, c'est avec les Togolais Fofo Scarfo et Lord Carlos que s'ouvre votre chronique certifiée Afroclub.
Oui, Fofo Scarfo a l'habitude d'être toujours à contre-courant du mouvement musical en général. Il le prouve encore une fois avec le titre 3h03 qu'on va écouter, un extrait de son album Voyage sorti en 2021 mais qu'il continue pourtant d'exploiter. Si vous reconnaissez l'instrumental, c'est normal. Il s'agit du groupe de jazz Akale Wube avec Manu Dibango au saxophone sur le titre Ambessa. On apprécie la version de Fofo Scarfo et Lord Carlos, 3h03.
Excellent titre pour une entrée en matière. On va passer maintenant à l'apéritif avec le rappeur ivoirien Jeune Lion qui propose son cocktail musical Ginger Juice.
Oui, Jeune Lion qui ne manque pas une occasion de rappeler qu'il est né à Marcoury, un quartier d'Abidjan dont il est extrêmement fier. Le rappeur à la créativité débordante se réclame d'un mouvement New Wave, nouvelle vague. Notez qu'il a des origines allemandes, bien qu'étant franco-ivoirien, il a grandi sous l'influence de la culture Rastafari en Côte d'Ivoire, ce qui lui permet de faire usage de ses influences culturelle dans sa musique métissée, et c'est avec le single Ginger Juice qu'il lance son année discographique 2025.
Que ça sent la Cali dans le sas, avec Platine et Gros Bamassa. Dites-leur de compter et de mettre le Wari dans le sac, hein. Ouais, avec besoin de visa. J'ai 80 000 dans la visa, hein. Le jeune n'a pas changé de visage, mais dans le ciel, elle Dieu pas la NASA, hein. Elle fume pas, elle va rouler ma cam. J'ai allumé un hook quand elle m'a déclaré sa flamme. Et elle est sain, elle dit qu'elle veut garder ma cam. Yaouba, j'ai fini, je l'escame. Impossible que j'aille en face à son âme. Même si j'ai tout le jeu, je vais jamais changer ma gamme. J'suis prêt pour la guerre, tu sais que j'ai bien épuisé ma lame. Même si que j'ai resté focus, si je passe t'es en low cost. Je suis toujours à mon poste et dis-leur que j'ai toujours l'astuce. Même si que j'ai resté focus, si je passe t'es en low cost.
J'ai toujours à mon poste et dites-leur que j'ai toujours l'excuse.
C'est très différent de ce que l'on peut entendre dans le rap actuellement. On va passer à la traditionnelle séquence rétro du jeudi. Et vous avez mis la barre très haut, Hervé, encore une fois, avec Césaria Ivoire.
Oui, et j'ai choisi le morceau Petit Pays de la diva aux pieds nus. Éternelle voix de Mindelo et du Cap Vert. Sa rencontre avec son producteur José Da Silva, lui, aussi originaire de Mindelo, changera sa vie à jamais. D'ailleurs, le surnom Diva aux pieds nus est le nom de son premier album enregistré à Paris en 1988. Sa morna s'exprime au monde dans le morceau Petit Pays, qui est la première piste de l'album Césaria, sorti en 1995.
Là nasceu põe une estrella qui cata brilhar lina mar põe une areia qui cata moyar espaillant desse monde fora sova chimar terra por cheio de amor. Te morna tem coladeira, terra sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rotimar, terra pôr, cheio de amor.
Cette chanson n'a décidément pas pris une ride, hein, et c'est déjà le moment de nous quitter, mon cher Hervé. Retour au temps moderne avec le chanteur guinéen Limo et sa chanson Djogo.
Lassimo Mansale, plus connu sous le nom de Limo, a dévoilé Djogo le 17 janvier dernier, une composition de Wisiz qui fait entrer Limo dans la nouvelle année. Dans Djogo, qui est un titre afro-pop avec des influences dancehall, Limo exprime son admiration pour une femme forte et indépendante, un peu comme vous, Sylvie. Et le rythme entraînant invite à danser, alors on y va.
Uno, dos, tres, je suis venu choqué comme Sosa. Si je veux finir dans Ferrari, je dois devenir Veloso. Le soir, je casse un tour, je pense au bail. Je me dis que la moula n'attendra pas. Chacun son tour, chacun son temps. Maintenant, je suis venu chercher ma part. J'ai mis les gants, j'ai mis le yoga. Tant qu'il n'y a pas la quiche, t'as y a pas d'odeur. La petite ne peut plus me faire bobo. Que j'ai plus de cœur, moi j'avance solo.
Merci à toute l'équipe d'Afrique Soir pour nous avoir suivis, d'avoir préparé cette émission. Merci à vous pour votre fidélité à la réalisation ce soir. Raphaël Lazizi, merci également à Alexis Guilleux. Et on se retrouve bientôt.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Suzanne Valadon ou l'histoire d'une artiste sans concession, modèle de Renoir ou Toulouse-Lautrec. Née dans le Montmartre populaire du début du XXe siècle, elle n'a jamais lâché sa passion du dessin et de la peinture. Souvent au mépris des conventions, le Centre Pompidou lui consacre une première grande exposition.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Abdelkader, adversaire de la France, amoureux de la France, chef de guerre et chef spirituel, auquel Karima Berger consacre son nouveau livre, un portrait personnel de l'homme du rapprochement entre l'Orient et l'Occident, à l'heure où les relations entre Paris et Alger sont si difficiles.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Questions de femmes, la santé cardiaque au féminin, infarctus du myocarde, AVC, hypertension artérielle. Un cardiologue répond aux questions des auditrices.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.